Capobec.
Ave good nil.
Mouliabim, pas pour mes ça.
Vous donne appétit. Oustol.
Oustol. Des femmes et des hommes nous racontent ces liens subtils qui nous rattachent à ce que nous mangeons. Qu'il s'agisse de produire, récolter, transformer, penser, raconter, transmettre, cuisiner, craindre ou aimer, la nourriture relie les hommes et fait vivre leur imaginaire. Alors écoutons, partageons et régalons-nous. Tous les chemins mènent à l'assiette.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous reprenons la grande saga de la tomate, qu'à présent, aucun légume n'avait eu autant d'honneur, et nous allons parler la tomate dans le monde.
Exactement. Nous allons regarder un petit peu les contraintes de production, et puis nous parlerons un petit peu de ses aspects organoleptiques. Alors, il faut savoir que la tomate est une plante herbacée qui est sensible au froid. Elle peut être vivace sous un climat chaud, mais en général, nous la cultivons comme une plante annuelle. Alors, on la cultive en plein champ ou sous abri, c'est bien connu, sous presque toutes les latitudes. Et elle occupe dans le monde environ 3 millions d'hectares, ce qui représente près du tiers des surfaces mondiales consacrées aux légumes. Il faut imaginer la place aujourd'hui détenue par la tomate.
Et pourtant, c'est un légume qui pousse plutôt à la verticale.
Exactement. Alors, cette tomate a donné lieu, comme ça, au développement d'une très importante industrie de transformation. Notamment, on va y pouvoir produire tous les concentrés que les enfants adorent, les sauces avec le ketchup, qui lui encore est une idole des enfants. On va pouvoir également la produire sous forme de jus et de conserve. Alors, à la base, l'espèce compte quelques variétés botaniques, comme la tomate cerise, par exemple. Mais d'autres tomates, comme la tomate groseille, appartiennent à une autre espèce, hein, qui n'est pas tout à fait la même. Donc, le monde des tomates est un monde quand même complexe. Son amélioration a commencé dès la domestication de l'espèce par les civilisations précolombiennes. Et aujourd'hui, c'est l'une des espèces que l'on connaît le mieux en agronomie, car elle sert de modèle génétique à beaucoup de plantes, et elle continue à faire l'objet de très nombreux travaux, tant en zone tropicale que tempérée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous intéresse énormément, nous occidentaux, et sur l'ensemble de la planète, tout le monde conduit énormément de travaux sur ce légume. Du coup, elle va être considérée comme une plante modèle pour un grand nombre d'espèces. Et sa première variété génétiquement transformée, autorisée à la consommation, a été produite de façon plutôt éphémère dans les années 1990 aux États-Unis. Aujourd'hui, on la produit dans environ 170 pays du monde. C'est dire que la quasi-totalité des pays du monde est concernée par sa production. Et sous divers climats, y compris dans des régions relativement froides, dans lesquelles on ne l'attendrait pas. Par le volume de production, c'est donc le premier légume au plan mondial, devant même la pastèque et le chou. Elle reste quand même derrière la pomme de terre et la patate douce.
Je suis étonné de trouver la pastèque dans tous ces légumes, mais comme quoi ?
Voilà, ben c'est toujours la difficile différence qu'on a à faire entre légumes, fruits, etc. Hein, ce qui est plus une notion de façon de consommer qu'une notion réellement botanique. Hein, puisque le légume, normalement, devrait être consacré uniquement aux fruits de la légumineuse. Alors, la production de tomates connaît deux grandes filières. Tout d'abord, la consommation aux produits frais. Et enfin, la consommation après transformation industrielle et conserve en second lieu. La consommation industrielle représente environ la moitié de la production dans notre Union européenne, mais 80% aux États-Unis et 15% en Chine. Alors selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production mondiale de tomates s'élevait en 2007 à 126 millions de tonnes, soit une surface de plus de 4 millions d'hectares, avec un rendement moyen d'environ 27 tonnes à l'hectare. Bon, ces chiffres ne tiennent pas compte de ce que nous faisons, nous, dans nos jardins, naturellement. Le rendement moyen, sur l'ensemble, pour la Chine, s'établit à peu près à 23 tonnes à l'hectare, ce qui est un peu en dessous. On tombe à 17 tonnes quand on arrive en Inde. En revanche, dans les pays dits très industrialisés comme les nôtres, on peut atteindre de plus de 50, voire 80 tonnes à l'hectare.
Mais au prix de quelle pollution ?
Exactement, exactement. C'est intéressant de voir qu'il y a un rapport de 1 à 4 dans les façons dont on peut produire entre l'Inde et un pays comme l'Espagne ou l'Italie. Alors, Quand on passe sous serre, c'est encore pire. On peut avoir des rendements comme ce que l'on trouve aux Pays-Bas, dont on connaît bien les tomates, ce qu'on appelle les tomates hollandaises, qui sont souvent... En tout cas, on leur reproche d'être pleines d'eau. Eh bien, figurez-vous qu'on pourra atteindre des rendements de 445 tonnes à l'hectare. On peut en attendre 428 au Royaume-Uni, 400 en Belgique. Et ce sont des rendements de fous. On a même pu, dans des circonstances extrêmement particulières, en rajoutant aux serres de l'éclairage artificiel, et en, disons, là, c'est, on essaye de faire de battre des records, on arrive à atteindre 1000 tonnes à l'hectare.
Bon, et en conclusion de ce petit chapitre économique, nous ne nous étendrons pas sur la tomate bretonne, puisque nous sommes nous aussi des champions de la production de la tomate en France. Merci Philippe, au revoir.
Oustoul, Caprobet.
Ave Goudnil.
Bouliabim, pas comme ça.
Bouton appétit.
C'est aussi un excellent salon de thé, l'instant thé. D'ailleurs, c'était peut-être l'idée de départ.
Alors, l'idée de départ, c'est vrai. C'est vrai que l'idée de départ, moi, j'y avais une dizaine d'années en discutant avec des collègues et en sortant d'un salon de thé où j'avais trouvé qu'on n'était pas très, très bien assis, qu'il y avait du bruit, du vent, qu'ils faisaient d'excellentes pâtisseries, mais je trouvais que le côté confort avait été un petit peu négligé. J'étais sortie en disant, mais enfin, un salon de thé, c'est pas ça, on oublie le mot salon, il faudrait faire un truc. Et je m'étais amusée à rédiger ce qui pour moi devait être un salon de thé. Et puis j'avais enterré ça étant salariée ailleurs. Et puis le jour où j'ai eu l'idée de monter mon entreprise, j'ai ressorti ce dossier en disant voilà, je vais faire un salon de thé. Mais n'étant pas pâtissière et n'allant pas pouvoir concurrencer les bons pâtissiers de Quimper, il fallait trouver autre chose. Donc en plus du salon de thé, c'est vrai que c'est le restaurant qui a pris le pas sur le salon de thé. Toutefois, on a quand même voulu faire un salon de thé un peu différent, c'est-à-dire qu'on trouve des fauteuils.
Tout à fait.
C'est des petits coins salons.
C'est voilà. Un très beau décor.
L'idée, c'était les petits coins salons pour avoir ce côté cocoon, un peu chaleureux, un peu confortable. Et on peut rester 3 heures bouquiné dans un fauteuil avec un thé et un gâteau.
Ou un chocolat, je signale aux auditeurs que vous avez l'art de faire le chocolat.
Il y a très bons chocolats au pain d'épices ou à la noisette, oui, qui sont très bons. Et on a une douzaine de variétés de thé.
La seule chose, c'est qu'il faut connaître, puisque, comme vous dites, c'est à l'étage, donc c'est vrai que ça ne se voit pas de l'extérieur.
Ouais, puis on est un petit peu excentré par rapport vraiment au centre commerçant de Quimper. Donc c'est vrai qu'on ne pense pas encore à nous.
C'est encore le bouche à oreille qui va encore faire...
Oui, il y a encore une marge de manœuvre intéressante.
Et votre mari, alors, comment a-t-il vécu l'aventure? Parce que visiblement, si j'ai bien compris, il est impliqué jusqu'au cou.
Il a commencé par ouvrir des grands yeux. Et puis, très vite, il s'est pris au jeu. Et puis, il a agrandi la surface cultivable,
Et aujourd'hui... Quand vous dites qu'il est jardinier, c'est jardinier par passion ou
par
métier?
Par passion, non, c'est pas son métier. Il a son métier à côté et en fait, il m'apporte son soutien et son aide en cultivant les légumes à ses moments perdus.
Ce qui n'est pas rien.
Ce qui fait qu'il n'a plus de moments perdus. Ça, c'est sûr. Oui, on a une grande surface là maintenant en culture et lui-même prend beaucoup de plaisir justement à redécouvrir aussi des légumes anciens, à mettre des légumes auxquels on n'était pas habitué, des légumes nouveaux et ça, il prend beaucoup de plaisir à ça.
C'est vraiment une aventure de couple.
Ah oui, tout à fait, oui.
Bon, Fanny, je suppose que vous discutez pas mal avec vos clientes, enfin je suppose pas tant que ça, je vous ai vu à l'œuvre. Soyons honnêtes. De quoi vous parle-t-il ou telle de préférence? Est-ce qu'il vous parle d'abord de votre démarche, de l'originalité de l'endroit? Est-ce qu'il vous parle de la qualité de vos produits? Est-ce qu'il vous demande des recettes?
Oui, c'est vrai. D'abord, on aime bien prendre le temps de discuter un peu. Ça, c'est vrai qu'il y a des jours où on peut, des jours où on peut moins, mais c'est vrai qu'on aime bien discuter avec nos clients, ce qui fait qu'on a beaucoup de clients fidèles d'ailleurs maintenant. Et les gens reviennent, et c'est vrai, me posent beaucoup de questions d'abord sur les recettes. Qu'est-ce que vous avez mis? Et moi, j'ai essayé de faire ça à la maison et je n'ai pas réussi. Et j'ai même deux dames qui viennent souvent le vendredi pour se donner des idées pour cuisiner pour le week-end à la maison. Parce que comme c'est une cuisine simple et familiale que je fais, je veux dire, c'est une cuisine qui est à la portée de tout le monde. Donc au moment...
Donnez-nous quelques exemples.
On va revenir. Aujourd'hui, j'ai fait un tagine d'agneau au fruit sec. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Tout, c'est d'assembler des choses et puis de les laisser mijoter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles m'ont dit, qu'est-ce que vous avez mis comme épices dedans?
Voilà. C'est pas si simple que ça.
C'est pas très compliqué. Et puis, il y avait un velouté de chou-fleur. Là aussi, une dame m'a demandé, mais en plus du lait, qu'est-ce que vous mettez dedans? Voilà, donc on échange beaucoup et j'ai même pas mal de clientes qui m'amènent des recettes.
D'accord.
Voilà, je vois cet été sur les courgettes, j'ai eu énormément de recettes et d'idées pour préparer des courgettes. Et j'ai même une dame qui m'a apporté un petit pot avec un confit de courgettes. Manger avec un fromage de chèvre, c'était délicieux, comme une confiture un peu épaisse. C'est merveilleux, voilà. Donc j'ai des échanges comme ça avec mes clients, ce qui est vraiment inespéré, je dois dire, d'avoir ce genre de relation, c'est vraiment très sympa. Et puis oui, beaucoup de questions sur les légumes. Donc là, c'est vrai que mon mari aime beaucoup venir raconter ses plantations, comment ça pousse, Et puis, on se rend compte aussi que de plus en plus de gens ont des petits coins jardins et de plus en plus de gens font des petits potagers. Et du coup, on a quelques échanges de graines et de conseils de semences et tout ça. Ouais. Donc, beaucoup là-dessus. Et puis, après, on me parle beaucoup aussi de l'accueil et du confort. Ça, c'est vrai que les fauteuils là-haut intéressent beaucoup les gens et voilà, j'ai des dames ou des messieurs même qui aiment venir s'isoler avec un livre dans les fauteuils et qui trouvent vraiment du plaisir.
C'est un ensemble, effectivement, un partage que vous avez de façon plus globale avec vos clients. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent ça.
C'est sûr que la notion d'accueil chez nous, elle était primordiale. La nécessité pour nous d'avoir un décor plus chaleureux, un décor particulier, quelque chose d'un peu plus cocoon que ce qu'on peut trouver ordinairement, je dirais. Et du coup, l'accueil est une notion très, très importante. Ouais. C'est sûr qu'on a des clients aujourd'hui qui sont presque des amis, quoi. Des gens qui se livrent facilement, qui viennent parler avec nous, avec qui on arrive même si on a le temps de déjeuner. Voilà. Il y a des liens qui se sont vraiment créés avec les gens.
And all the time the lashes change. his hands, curving and sweeping, rising and reaching. I could feel what he was feeling.
Watching the picture,
lines like these to be an architect's dream.
Via le site internet sur lequel on peut me contacter, bien sûr, on peut retrouver les recettes.
Quel est le nom de la santé?
Alors, c'est restaurant-quimper.fr. Donc, possibilité d'y voir les nouveautés en matière d'épicerie.
Hein, il est possible d'acheter à distance?
Alors, je ne l'ai pas pensé encore.
Pour l'instant?
Non, pour l'instant, je ne l'ai pas pensé. Maintenant, si j'ai de la demande, on peut voir comment on peut s'organiser, ça, ce n'est pas un problème. Possibilité également de suivre en direct l'actualité du jardin. Ah, très important de savoir quand les carottes ont été semées et les 1200 poireaux plantés. voilà. Et puis moi, j'ai demandé à mes clients de me donner leur adresse internet s'ils le souhaitaient,
oui,
de façon à faire une petite newsletter de temps en temps pour qu'ils soient avertis de façon privilégiée d'offres que je pourrais faire ici ou de nouveautés ou voilà. Donc effectivement.
Donc vous parlez de recettes aussi.
Alors il y a la recette du mois sur le site effectivement.
D'accord.
Voilà. Mais on peut en échanger. Et puis on a ouvert le point lecture et j'ai déjà des gens qui m'ont apporté des livres, d'autres qui m'en ont pris. Donc on va faire des échanges de livres. Voilà. Et puis pourquoi pas aussi un jour faire des échanges de recettes.
Oui, ça me semblerait.
Ouais, on peut avoir plein d'idées comme
plein
ça.
D'idées. Donc, ouais. Faire vraiment un endroit, un lieu de vie.
Oui.
Pas exclusivement un restaurant.
Ah non, non, non.
Un lieu de partage,
ouais,
autour de la,
tout
nourriture.
Tout à fait. Ouais.
Enfin, de la nourriture.
De la nourriture, de la convivialité. Voilà.
Et votre vie à vous, Fanny, elle se décline comment? Parce que vous devez commencer assez tôt quand même.
Je suis là à 8 heures, j'attaque la cuisine jusqu'à midi. Et à midi, je passe en salle pour le service, et puis une personne vient me remplacer en cuisine pour le dressage des assiettes. Et puis l'après-midi, c'est le salon de thé. Hein?
Le matin, vous n'avez pas de...
Si, le matin, j'ai un petit peu de monde. Si, le matin, il m'arrive d'avoir des gens au petit déjeuner ou qui viennent juste boire un café. Et puis l'épicerie toute la journée.
D'accord. Et vous faites les gâteaux le matin?
Je fais les gâteaux le matin.
La cuisine, c'est 4 heures le matin.
Ah oui.
Et après, c'est fini.
Et après, les gâteaux souvent l'après-midi, en début d'après-midi, pour l'après-midi. Et puis, jusqu'à 19 heures.
C'est un rythme plus soutenu ou moins soutenu que celui que vous aviez avant quand vous étiez salarié?
Ah, au niveau des horaires, c'est un poil plus chargé. Mais pas beaucoup plus. Par contre, c'est plus physique.
Oui.
Puisqu'avant, j'avais la chance de travailler assise derrière un bureau. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis debout toute la journée. C'est vrai, au niveau physique, c'est plus dur.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile.
Au niveau stress, c'est peut-être plus facile.
Ah, c'est beaucoup plus facile. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Même si j'ai le poids d'une entreprise sur les épaules, quelque part, je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même.
Oui.
Et on est beaucoup plus stressé lorsqu'on veut satisfaire un patron.
C'est vrai.
Parce que c'est un but de satisfaire son patron.
Non, c'est pas facile.
Et c'est pas toujours facile.
C'est plus facile finalement de satisfaire ses clients.
Ah, beaucoup. Les clients sont beaucoup plus faciles que les patrons. Nous avons la chance d'avoir des clients adorables. On a les clients qu'on mérite.
C'est pas faux.
Il paraît qu'on a aussi les patrons qu'on mérite.
Bon.
Mais non, on a des clients adorables et non, c'est moins stressant. Ouais. Qu'avant.
Et puis vous ne travaillez pas le soir.
On travaille le soir sur réservation de groupe.
D'accord.
On peut réserver à partir de 10 personnes. Donc on l'a fait pour des formations, des laboratoires, des entreprises ou bien des repas de fin d'année. On a même fait des anniversaires de famille, des choses comme ça. Ouais.
Vous êtes ouverte le samedi mais pas le dimanche?
Non, pas le dimanche ni le lundi, du mardi au samedi. Moi j'ai encore des horaires parce que j'ai un garçon que je voulais quand même voir un petit peu à la maison. Donc c'est vrai que je suis absente.
Vous avez trouvé un bon équilibre.
Tout à fait.
Fanny, merci beaucoup.
Merci
de nous avoir consacré du temps.
Et je vous en prie, avec plaisir.
Et je ne peux qu'inviter, sans vouloir faire de publicité abusive.
Non, nous n'en faisons pas sur Radio Évasion.
je ne peux qu'inviter nos auditeurs à venir faire un tour à l'instant T. Ça vaut vraiment la peine.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Oustoul,
Caprobet.
Have a good meal.
Mouliabim, pour combien de temps?
Bon appétit.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors si j'ai bien compris, aujourd'hui on parle des vertus du vinaigre.
Tout à fait. Le vinaigre, on l'a sous différentes formes. Il peut être blanc, il peut être vinaigre rouge de vin. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement au vinaigre cristal ou vinaigre blanc transparent.
D'alcool,
voilà.
Le moins cher,
oui, en effet. Et ça, c'est un des intérêts de ce vinaigre. Mais pourquoi allons-nous nous y intéresser? Parce qu'il a l'intérêt, entre autres, de pouvoir nous servir dans notre vie au quotidien pour nettoyer.
Donc, ce n'est pas qu'un aliment.
Le vinaigre blanc, non, on va plutôt le considérer plutôt comme une aide pour désinfecter, pour nettoyer, pour détartrer, pour désodoriser également, pourquoi pas. On l'oublie, on l'a oublié parce qu'il n'y a pas encore très longtemps, allez, on va encore parler de nos grands-mères, mais nos grands-mères l'utilisaient avec, pas parcimonie, l'utilisaient amplement, et puis ben, on l'a oublié au profit de produits tout faits.
Plus élaborés. Avec de la publicité.
Avec beaucoup de publicité, qui sont également très intéressants. Mais pourquoi pas essayer de voir peut-être plus simple et avoir de bonnes idées.
D'accord, on vous écoute.
Alors, par exemple, c'est un excellent anti-calcaire. Hein, c'est vrai que dans notre région, on n'est pas tellement
ennuyé par le calcaire.
Mais de temps en temps, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de temps en temps, autour des robinets, on a un petit peu de blanc. Ça ne vous dit rien?
Tout à fait.
Eh bien, un petit peu de vinaigre autour, il joue son rôle d'anticalcaire. Au lieu de passer sur des produits beaucoup plus agressifs, je dirais, aussi bien agressifs pour peut-être les joints, parce que ça, les joints ne sont pas toujours très bien préservés avec ce genre de produits agressifs. Donc là, le vinaigre, on n'a pas de souci. Et puis, il n'y a pas une odeur trop désagréable.
Non.
Par contre, si l'odeur, vous la trouvez désagréable, vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande, de citron, ou tout simplement un petit peu de jus de citron. Et là, vous avez ce côté vinaigre, cette odeur de vinaigre qui disparaît.
Voilà un excellent truc. Je me souviens que quand j'étais enfant, on nous faisait rincer nos cheveux, la dernière eau de rinçage, avec de l'eau vinaigrée.
Oui.
Quelques gouttes d'huile essentielle en plus, je pense que ça devient presque un produit de
beauté. Tout à fait, parce que souvent on oubliait les huiles essentielles et c'est vrai, l'odeur des cheveux n'était pas toujours très agréable. Mais il n'empêche qu'on avait des cheveux très lisses et très brillants, hein, n'est-ce pas?
Voilà, donc...
nous avons parlé de l'anticalcaire, on peut parler aussi de désinfectant ménager. Ce vinaigre blanc, eh bien, quand vous lavez votre frigo,
oui,
idéal, avec quoi vous le lavez d'habitude?
Oh, avec produits ménagers classiques.
Oui, peut-être avec de temps en temps une petite goutte d'eau de Javel. Je sais que certains utilisent de Javel, mais...
Il y a une odeur avec
l'eau
de Javel.
Il y a une odeur, et puis on a peur de contact de l'eau de Javel avec les aliments. Donc là, c'est pareil, vous nettoyez votre frigo avec un nettoyant classique. Et pour le côté désinfectant, vous passez du vinaigre blanc à mélanger avec un peu d'eau et une petite goutte d'huile essentielle toujours. Mmh. Et voilà. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de le rincer. Quelque chose que vous pouvez aussi... Vous savez, si pour certains qui ont des lave-vaisselles, eh bien, pour éviter de mettre ces produits que de rein dans le rinçage, eh bien, vous mettez directement du vinaigre blanc dedans.
C'est là, infiniment plus économique.
Infiniment plus économique.
D'autres usages encore pour le vinaigre ?
Écoutez, oui, mais peut-être pour
une autre fois.
Tout à fait, ça.
Excellente idée, Marie.
Allez, à bientôt.
Rab alayla, rab shireinu, habokea la shamayim, shuvi shuvi, orateinu, mechudeshet shivatayim, shuvi shuvi, venasof ki darkeinu, en lasof ki od nimshechet hashasheret, ki libeinu lev echad meolam va'ad yad, ki od nimshechet hashasheret.